Eh bien, je vous invite à lire dans la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de Philippe, chapitre 1, versets 9 à 11. Paul écrit « Ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité. » Qu'ainsi vous sachiez discerner ce qui est important, afin que vous soyez sincères et irréprochables pour le jour du Christ, et que vous soyez remplis du fruit de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Il est toujours intéressant de lire les prières de l'apôtre Paul pour les chrétiens auxquels il s'adresse dans ses lettres, parce que ce sont des choses auxquelles il tient particulièrement, qu'il aimerait particulièrement qu'il reçoive ou développe. Et même si nous sommes encore en 2019, je proposerais bien pour l'année 2020 cette partie du texte que nous avons lu où il s'agit de discerner ce qui est important afin d'être sincère et irréprochable, afin d'être rempli du fruit de justice. Traduit en langage moderne, voir clair dans la vie, dans ma vie, pour faire les bons choix, ceux qui vont me construire en tant qu'être humain et surtout en tant que disciple de Jésus, ceux qui vont m'enrichir de bonnes choses, qui vont donner sens à mon existence dans une perspective centrée sur le Christ. Et voir clair aussi dans nos vies communautaires, faire les bons choix, avancer ensemble sur le bon chemin. Parce que Paul prie pas seulement pour des chrétiens individuellement, mais pour la communauté dans son ensemble. Il ne suffit pas d'être devenu chrétien, d'avoir répondu à l'appel que Jésus adresse à tous, pour que tout devienne lumineux et facile, nous le savons. Et pour voir clair dans notre vie, et donc dans nos choix, l'apôtre ne nous donne pas de trucs, pas de secrets, mais il décrit un chemin, une démarche, qui s'inscrit dans la durée, un apprentissage. C'est ce chemin-là que je vous propose d'examiner ce matin, dans les divers aspects que Paul souligne. Au commencement, et ça vous ne serez pas surpris, il y a l'amour. C'est le point de départ. L'amour, dans la Bible, une manière de vivre. En particulier, une façon d'être avec ceux que je rencontre dans ma vie, ceux que la Bible appelle les prochains, et plus particulièrement ceux avec qui je fais l'Église. L'amour, accueillir chacun avec respect, sans jugement, comme Jésus nous accueille. Nous savons bien que cette notion de respect, elle n'est pas si évidente. Nous savons bien que nous jugeons vite, avant même de bien connaître les choses et les gens. On classe, on met des étiquettes, parfois on médit. La Bible nous appelle à aimer, c'est-à-dire à nous intéresser au prochain, à ce qu'il est, à ce qu'il vit, à ses joies, à ses peines, et aussi lui faire une place dans ma vie, le laisser entrer dans mon espace, le laisser me dire qui il est, ce qu'il pense, même si cela m'interpelle ou même me trouble parfois. Si c'est vraiment de l'amour, tout cela est porté par le désir, l'envie de rencontrer le prochain, d'apprendre à le connaître, à créer du lien avec lui, l'envie de faire église avec lui. L'amour de Dieu s'exprime par ses désirs, son désir de nous connaître, son désir de créer et développer une relation avec nous. Et c'est aussi pour cela qu'il s'est fait aimer. Le mot désir n'a pas toujours bonne presse dans nos églises. On l'utilise plutôt pour parler de désir mauvais. Mauvais parce qu'il se porte sur des choses néfastes, négatives. Ou mauvais parce que c'est un désir centré sur nous-mêmes. L'amour de Dieu nous appelle à vivre un amour désirant, mais aussi décentré, accueillant. Et sans ce désir, l'amour chrétien risque de dégénérer en moralisme fatigant et pas très joyeux. Donc au commencement, il y a l'amour. Mais ce n'est pas une réalité statique. Paul appelle ses lecteurs à grandir dans l'amour. Tiens, tiens. Il prie pour que l'amour des Philippiens, augmente. Voici une bonne nouvelle. L'amour peut grandir. L'amour peut grandir. Nous, on pense que l'amour, il est là ou pas, il nous tombe dessus ou pas. Mais ici, comme dans d'autres textes de la Bible, Paul nous dit que l'amour peut grandir. Paul, dans ce texte, ne parle pas de croissance en termes de quantité ou d'intensité d'amour. La croissance dont il parle est plutôt qualitative. Il nous propose de grandir dans l'amour à travers la connaissance et la vraie sensibilité. Parce que dans la Bible, l'amour n'est pas seulement une question de sentiment, mais une attitude qui met en jeu toutes les dimensions de l'existence. Les sentiments, l'intelligence, la volonté et l'énergie. Comme le rappelle ce verset que vous connaissez bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute... Pourquoi ? Toute ta force et quoi encore ?
Tout ton cœur.
Tout ton cœur. Tout ton cœur. Toute ta force, toute ta volonté. Enfin, on peut traduire, élargir. Tout l'être intérieur, toutes les ressources de notre être intérieur sont appelées à se mobiliser pour aimer Dieu et le prochain. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Pour prendre une traduction, on pourrait ajouter encore. Cet amour-là, dit Paul, il peut grandir en connaissance. En connaissance. Dieu se donne à connaître, il se révèle. Nous avons besoin d'abord de mieux le connaître lui. Même que nous sommes chrétiens, nous n'avons pas fini de le connaître, de le découvrir, et d'élargir notre compréhension de qui il est et de comment il agit. Facilement, nous pouvons projeter sur Dieu nos propres idées sans nous en rendre compte. Nous avons aussi une certaine manière tendance à faire Dieu à notre image, l'image de nos représentations. Chaque époque fait cela à sa manière. Nous n'êtes pas attentifs. Nous tombons là-dedans aussi. C'est frappant de voir que pendant les guerres mondiales, chaque camp pensait que Dieu était de son côté. Et d'ailleurs, les responsables religieux ne se privaient pas de bénir les armées, de bénir les canons, de bénir, etc., etc., les soldats, en pensant que chacun était du bon côté, du côté de Dieu. Et avec sincérité. On développait une image d'un Dieu puissant, voire d'un Dieu guerrier. Aujourd'hui, ça nous paraît absurde. Est-ce que ça veut dire que nous sommes préservés d'autres dérives ? Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, peut-être que l'image qu'on se fait de Dieu, c'est d'un Dieu dont nous sommes les clients. Nous attendons de lui toutes sortes de bonnes choses et nous râlons quand ces bonnes choses ne viennent pas. Nous attendons de lui une vie plutôt agréable et réussie. Et si ça ne vient pas, on n'est pas content. Nous attendons toutes sortes de bénédictions, comme nous disons, qu'il nous conduise, nous garde, nous protège, nous guérit. C'est pas faux d'attendre ça de Dieu. Mais si cela se réduit à cela, ça devient très limitatif. Dieu n'est pas là pour nous faciliter la vie, pour régler nos problèmes. Il est là, il nous appelle à le suivre lui. Et dans cette marche-là, qui est souvent compliquée, il nous assure de sa présence, de sa protection, de son soutien. Mais nous aimerions bien avoir tout ça sans forcément avoir besoin de le suivre. Nous avons besoin de mieux connaître. Et de mieux connaître Dieu et son projet de vie pour nous. Nous avons besoin de lire la Bible, évidemment, seul, mieux sans groupe, dans le partage et la discussion. Le goût de la connaissance est, paraît-il, en baisse dans les générations actuelles. On veut des moments plutôt fun et joyeux. On n'aime pas lire. On cherche sur notre téléphone portable une méditation qui nous prend 3 minutes plutôt que de lire le texte et de prendre le temps de le méditer. On veut des cultes plus joyeux, plus de chants, plus de louanges, etc., etc. Il y a pas de mal à tout ça. Et il nous faut des fêtes et des moments joyeux. Et peut-être que ça a manqué à la génération précédente. Quand je suis arrivé à Lunéville, en 1990, le pasteur qui me précédait a dit, qui avait été le premier pasteur de la relance de l'église, donc ils ont acheté le bâtiment, ils ont fait beaucoup de travaux, ils ont annoncé l'évangile, l'église a grandi, il a dit qu'ils avaient passé des super moments, mais qu'il y a une chose dont ils se rendent compte qu'ils avaient oublié, c'était de faire plus souvent la fête. C'était une génération où on était plutôt sur l'effort et des choses comme ça, plutôt que sur la fête. Mais ça m'est resté, cette chose. Il m'a dit ça, bon, vous voyez, il m'a dit ça il y a près de 30 ans, mais ça m'est resté. La connaissance. À la connaissance, pour grandir dans l'amour, Paul ajoute ce que ce mot traduit par la vraie sensibilité. Ce mot grec ne se trouve qu'ici, dans le Nouveau Testament. Mais on le trouve souvent dans la Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, faite 3 ou 4 siècles avant la naissance de Jésus. Et il se trouve notamment dans le livre des Proverbes. Dans le livre des Proverbes. Et là, on n'est plus dans la connaissance pure, mais on est dans le savoir qui vient avec l'expérience. Avec ce que la Bible appelle la sagesse. Et la sagesse, c'est aussi une question de feeling. D'expérience. On devient sensible à un certain nombre de choses. Pas seulement des choses qu'on a en tête, mais on devient sensible avec le temps à certaines choses. On tire les leçons de nos expériences et de ce qu'on voit autour de nous. Et donc l'amour est aussi une question de vraie sensibilité. Paul relie ensemble amour, connaissance et vraie sensibilité. Ces choses-là, pour lui, marchent ensemble et se nourrissent les unes les autres. Paul ne sépare pas ce qui est de l'ordre des sentiments, de la sensibilité, de ce qui est de l'ordre de la connaissance ou de l'intelligence. Et en mettant ces choses ensemble, Paul invite à un équilibre dynamique, car ces trois choses se corrigent et se renforcent. L'amour sans connaissance peut tourner en rond, en pure sensibilité, il peut être facilement manipulable. Le vrai amour veut comprendre, connaître, pour ne pas se tromper. Le vrai amour veut connaître l'autre. C'est vrai dans le couple, c'est vrai dans l'amitié, c'est vrai dans la relation à Dieu. Si Paul invite les Philippiens à ce que leur amour grandisse en connaissance et en vraie sensibilité, c'est parce qu'il a un but bien précis. Discerner ce qui est important, ce qui a vraiment de la valeur, ce qui est vraiment vrai, si je puis parler ainsi, ce qui construit réellement notre vie. Discerner, interpréter le message de la Bible, et discerner, interpréter sur la façon de le vivre dans notre réalité personnelle et dans notre réalité d'Église. Discerner parce que le monde est compliqué. À une époque, c'était assez facile. On avait tendance à dire que tout ce qui n'était pas chrétien, ça venait du monde et c'était pas bien. Ouais, c'est pas compliqué comme raisonnement. Hein. Tout noir, tout blanc, ou presque. Aujourd'hui, on le dit moins, heureusement, parce que la réalité est plus compliquée que ça. Tout n'est pas noir dans le monde. Et d'ailleurs, on le sait tous, tout n'est pas blanc dans l'Église. Discerner. Aussi parce que nous sommes environnés de messages mensongers. On nous dit que pour être heureux, il faut acheter ceci ou cela. Pour être dans le coup, il faut avoir telle ou telle attitude. Pour être un chrétien qui réussit, il faut adhérer à telle ou telle manière de penser, etc. On est submergé de messages aujourd'hui, forcément, par tous les moyens, la technique, les médias. Comment voir clair ? Discerner. Parce qu'au-delà de ce qu'on nous raconte, nous devons trouver chacun nous-mêmes, pour nous, le chemin de Dieu. Pas simplement dire je vais faire ça parce qu'un tel a dit ça. Pas simplement être de Paul ou d'Apollos ou de Képhas ou je ne sais pas qui d'autre. Ce qui peut être tentant d'avoir des gens qui pensent pour nous. Mais trouver nous-mêmes notre chemin par la prière, en discutant avec les autres, évidemment, en demandant des conseils, mais en étant acteur principal de sa propre vie, sans se mettre à la remorque de ce que pensent les autres. Il nous faut discerner, parce que l'évangile n'est pas juste une recette à appliquer mécaniquement, mais c'est un chemin où parfois nous avons du mal à voir clair. Nous avons à faire des choix à partir du discernement de ce qui est important. Quelles sont les choses vraiment importantes dans la vie, aux yeux de Dieu? Quelles sont celles qui devraient me servir de critères? Curieusement, l'apôtre ne donne pas une définition de ce qui est important, mais il donne une orientation. Être sincère, être irréprochable, être rempli du fruit de la justice qui vient de Jésus-Christ. Voilà ce que nous dit l'apôtre. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? L'expression peut-être ne nous parle pas beaucoup, alors passons un peu de temps dessus. Sincère traduit un mot qui veut dire littéralement « pas mélangé ». Pas mélangé. Ou pur, si vous préférez. Ce que Paul vit, c'est une vie cohérente, dans laquelle nous ne sommes pas en contradiction avec ce que nous disons, avec ce que nous croyons. Le mot grec traduit par « irrépréhensible » peut signifier qu'il ne trébuche pas, ou qui ne fait pas trébucher les autres. Il ne s'agit pas de je ne sais quelle perfection inaccessible, mais d'une vie chrétienne qui ne s'est pas perdue en chemin et qui n'est pas en scandale à d'autres. Le fruit de la justice qui vient de Jésus-Christ est une expression très large qui désigne les changements que la relation avec Dieu à laquelle Jésus nous introduit, les changements que cela provoque en nous. Le fruit. L'image du fruit, je le rappelle toujours, nous dit que ça prend du temps. Ça prend du temps. Il ne suffit pas aujourd'hui dans une prédication de se dire, après une prédication, de se dire oui, je vais aller dans ce. Je veux vivre cela et s'attendre à ce que demain ça tombe. Le fruit prend du temps. Il demande que nous soyons persévérants, que nous prions pour que Dieu fasse pousser ses fruits en nous. Et que nous commencions déjà à faire ce qui nous est possible. On pourrait résumer ce que l'apôtre Paul nous demande d'être avec le mot de maturité. Cette maturité se construit, se développe au fil du temps, avec notamment ici dans ce texte les ingrédients mis ensemble de l'amour, de la connaissance et de la sagesse sensibilité. Paul nous veut capables, nous veut suffisamment adultes, pour faire des choix, et des bons choix. Notre vocation n'est pas l'obéissance légaliste, ni le suivisme de tel mode spirituel. Il est de devenir des adultes capables d'une réflexion large, qui articule une bonne information, une sensibilité aux situations, et l'amour pour ceux qui sont autour de nous. Paul s'adresse à une église, à un groupe de croyants. Cette maturité se développe aussi au contact les uns des autres. Dans la communion fraternelle, dans la réflexion collective, dans les groupes d'hommes, dans les études publiques, dans les cultes, dans les assemblées générales, que sais-je encore. Ensemble, nous pouvons et nous devons nous aider les uns les autres sur ce chemin. Qu'il en soit ainsi.